simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Et bonsoir, eh bien, ce soir, on va faire une émission avec la Mouette Arrachée. En deux temps, il y aura deux copains de Boulogne-sur-Mer, puis il y aura ensuite un copain de Lille. C'est à propos d'un bouquin qui est paru aux éditions Acracy, qui s'appelle « Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l'atelier ». Ce sont des paroles de Benoît, Benoît Frachon, qui était à cette époque-là un jeune ouvrier libertaire, et qui est devenu un stalinien du PC. Alors, que dire de ce bouquin? Ben, c'est une enquête ouvrière. Alors, je pense qu'on va déjà dire ce qu'est une enquête. La première enquête dont j'ai entendu parler, moi, c'est celle d'Engels, je crois. Ensuite, ça a été suivi de très près par Karl Marx en 1880, donc on est au 19e siècle. Ensuite, il y en a eu d'autres dans les années 60. Puis maintenant, ça a tendance à prendre de l'ampleur. Alors, je crois qu'on a au téléphone Xavier, qui va nous dire déjà, dans un premier temps, quelles ont été leur motivation de faire une enquête ouvrière à Boulogne-sur-Mer, mais aussi à Lille, et aussi d'ailleurs en Bretagne. Xavier ?
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Non, j'entends rien.
Ah, nous, on vous entend.
J'entends rien.
Et moi, tu m'entends?
On n'a pas de retour. Donc oui, c'est normal. C'est normal. On a des nouveaux studios et donc c'est normal que ça marche pas. Hein, c'est évident. Donc ben moi, je vais continuer à blablater sur l'enquête ouvrière en attendant qu'on ait un peu plus qu'on ait nos invités quoi. Donc oui, l'enquête c'est une pratique du mouvement ouvrier, mais c'est pas seulement une pratique du mouvement ouvrier. C'est aussi une pratique qui a été faite par des intellectuels ou par des ouvriers eux-mêmes ou par des militants. Qui permettait au départ de connaître et de comprendre les évolutions de ce milieu, déjà l'apparition de ce milieu, souvent pour y intervenir ou soit pour pouvoir faire remonter des informations. Alors je crois qu'on a nos camarades avec nous, non?
Oui.
Toujours pas?
Ouais, je vous entends.
Ah c'est oui, bon. On t'entend très faiblement, mais on t'entend, c'est toujours ça de gagner. Oui, alors j'étais en train d'essayer assez maladroitement de faire la généalogie de cette enquête, et Denis rappelait fort justement le moment fondateur qu'avait été pour le mouvement ouvrier, l'enquête de Friedrich Engels sur les ouvriers de la société anglaise, en l'occurrence dans la filature, mais aussi d'autres types d'enquêtes qu'il y avait eu au début du XXe siècle, et puis pour celles qui nous intéressent un petit peu plus, dans la seconde partie du XXe siècle, avec notamment d'un côté le groupe qu'on a appelé les Cahiers de Mai, et puis de l'autre, évidemment, pour ceux qui connaissent un peu, qui sont familiers de l'histoire, celui de l'autonomie ouvrière italienne, avec les enquêtes qui avaient été menées. Mais d'abord, peut-être première question, c'est quelles ont été les motivations de cet ouvrage, et puis pourquoi vous lancez dans cette galère, hein?
Ouais, ce que je dis dans cette galère.
Nous, les raisons pour lesquelles on s'est lancé un peu dans cette histoire d'enquête, elles sont simples en fait. C'est que on a fait le constat que depuis à peu près 2 décennies, on a accumulé défaites sur défaites autour de la question du travail, que ce soit aussi bien autour de qu'elle se présente sous la forme d'une attaque contre les retraites, la loi travail, les réformes chômage ou tout ce que tu veux, c'était quand même on enquillait défaite sur défaite. Donc nous, on voulait comprendre un peu les raisons de ces défaites, sachant que pour nous, l'explication de la mauvaise stratégie syndicale, de la mauvaise direction syndicale n'était pas suffisante. Je pense qu'il y avait une raison. Enfin, on pensait qu'il y avait une raison qui était beaucoup plus profonde que ça et qui tenait, entre autres, effectivement, à quels sont les acteurs qu'on retrouve dans ces luttes et ceux qu'on ne retrouve pas, quels sont les gens qu'on ne retrouve pas. Et donc, ça posait la question de la composition de la classe, quoi, très clairement.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'interrogations ces dernières années sur, effectivement, pourquoi est-ce que ça n'embraye pas ? Où sont les gens ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il y a eu des tentatives, je pense, notamment quelques petites tentatives qui ont été faites, comme la plateforme d'enquête militante, mais qui ont d'abord été, si je ne m'abuse, des travaux, entre guillemets, de sociologues. Qu'est-ce qui différencie, vous, votre boulot, votre démarche, de celle d'un universitaire, d'un intellectuel ou d'un sociologue ?
Nous, on le revendique très clairement, c'est-à-dire que notre démarche, elle est politique, quoi. Alors, au début, quand tu faisais la généalogie, c'est tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, d'enquête, il y en a en gros de deux types. Il y a l'enquête qui est menée de façon administrative par l'État ou les instituts para-étatiques, qui, dès le 19e siècle, s'intéressent de très près à la classe ouvrière, parce que c'est un objet un peu nouveau et puis qui leur échappe, et dont ils ont peur. Et qu'ils veulent absolument contrôler. Les premières enquêtes, elles sont menées par les bourgeois, quoi, en fait. Hein, par les gens qui travaillent pour l'État, pour le patronat, essayer de cerner un peu qu'est-ce que c'est que cette nouvelle composition sociale.
Ce groupe social qui émerge dans la société, qui a donc des pratiques à la fois au boulot, mais aussi en dehors du boulot, donc il faut le mesurer pour pouvoir le contrôler. Hein, en général, ça va ensemble.
C'est ça, ouais, les premières, c'est un médecin, on retrouve des médecins, on retrouve...
Les physiocrates avec le plaid, etc., etc.
C'est ça, voilà. Et donc, le fil officiel aujourd'hui, c'est les enquêtes un peu de type sociologique, quoi. Nous, c'est pas du tout ça, le but, c'est pas du tout celui-là, hein. C'est comme je te l'ai dit, c'est essayer de comprendre où on en est, dans l'affrontement entre effectivement ce qu'on appelait autrefois et qu'on continue à appeler la classe ouvrière et puis le deuxième élément qui lui fait face, c'est-à-dire le capitalisme, quoi, le capital. Voilà.
Alors peut-être 2 questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'après mes fiches les fiches de police, vous vous revendiquez comme anarchiste communiste. Donc est-ce qu'il n'y a pas la volonté d'aller chercher et d'aller comprendre ce qui serait à nouveau le sujet de la révolution, le sujet de l'histoire, donc ce que tu dis, c'est la classe ouvrière. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi l'envie de faire cette démarche pour trouver un prétexte pour intervenir dans cette classe ouvrière? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de classe ouvrière? Est-ce qu'il ne serait pas plus opportun, adéquat, de changer le terme, non pas pour le dénaturer, mais pour essayer d'en trouver un autre? Parler simplement de classe laborieuse, voire de prolétariat, peut-être ?
Oui. La question de comment nommer les choses est importante. Enfin, je veux dire, par exemple, les Anglais, quand ils disent working class, c'est la classe du travail, quoi.
Et oui.
Nous, c'est plutôt comme ça qu'on...
Oui, c'est la classe du travail, très bien.
Voilà, qu'on envisage les choses, c'est la classe du travail. Mais quelle est sa composition ? En fait, c'est ça, quelle est la composition de la classe actuellement, quoi. Est-ce que c'est toujours la même composition de classe que celle qui prévalait dans les années 50 ou 60 ? Et qu'on rencontre aujourd'hui, on pense pas du tout, quoi.
Oui, tout à fait.
Il y a eu de profondes modifications qui expliquent pas mal de choses. Alors les Italiens, par exemple, quand ils parlaient de composition de classe, eux, ils divisaient ça de façon un peu, à mon avis, assez théorique et rigide, c'est-à-dire, une composition technique qui va te donner la composition politique, quoi. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes, mais qu'on peut plus, c'est pas des schémas qu'on peut plaquer comme ça, de façon un peu...
Automatique, ouais, schématique, ouais, mécaniciste, ouais, on dirait presque. Même tel type de travail donne tel type de formation politique, de tel type d'expression, etc., etc. Or, ce qu'on voit et ce qu'on sait, c'est, tu parlais de classe ouvrière, justement, quand on a ces mots-là, nous, nos images, c'est évidemment les gros bastions industriels, type Boulogne-Billancourt, avec des gens en bleu de travail qui font les 3-8.
Et qui sont des milliers dans un même lieu.
Qui sont archi-syndiqués ou syndiqués et qui ont une capacité d'action en défilant dans la rue, derrière des pancartes et des ballons, voire en faisant des barbecues.
avec des merguez.
Avec des merguez. Et voilà. Et ce qui est sûr, c'est que cette chose-là, elle a changé.
Ça a changé, c'est clair.
Ouais. Fred, on s'est passé au téléphone.
Vas-y, Fred. Hein.
Voilà, moi je voulais rebondir un peu sur le questionnement du début et justement par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que à Bougogne, bon nous on est mouvementiste, mais il n'y a jamais vraiment ce qui s'appelle de mouvement au sens où on peut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quand des réactions se font au niveau national. Je pense aux gilets jaunes, je pense aussi aux bagarres pour la retraite, etc. Nous, on s'est aperçu qu'à Bougogne, à ces occasions-là, on voyait dans la rue des gens qui, de leur propre aveu ou de leur propre dire, n'étaient jamais allés dans la rue quelquefois. Et ce qu'on connaît ici, puisque tu parles justement d'ouvriers, syndiqués, de bastions industriels, etc., etc., nous, ce qu'on connaît à Bougogne, c'est le quartier de Marais, qui sporadiquement bouge au gré des rachats des boîtes par les Norvégiens ou autres, et qui bouge au gré des charrettes de salariés qui dégagent. Maintenant, ce qu'on a constaté ici à Boulogne, c'est que justement, quand il se passe des choses qui sont un peu extraordinaires, du point de vue militant, politique, syndical, et du point de vue du monde du travail, c'est que justement, tu parlais grosso modo des cols bleus et de ces gens-là, ce qu'on a pu constater, c'est que dans la rue, ces cols bleus, ces ouvriers, notamment ceux du privé, ben on les voyait pas, quoi. Donc ça veut dire que notre première question, par rapport à cette histoire d'enquête ouvrière, et à la question de dire ben, où sont les ouvriers, ben, les ouvriers sont dans les boîtes. Et pourquoi est-ce que dans les boîtes, il se passe pas ce qui se passe quelquefois dans la rue, quoi. Donc ça a été un de nos premiers questionnements, essayer de diffuser un questionnaire qui permette d'avoir un écho possible chez des gens qu'on ne rencontre pas dans la rue,
mais qui bossent,
où il y a des mouvements, quoi.
Qui sont exploités.
Voilà.
Mais là, tu as embrayé directement sur ce qu'on pourrait considérer comme une autre partie de notre conversation, mais allons-y, ça nous permettra d'avancer. Alors donc, comment s'est faite concrètement votre enquête, entre guillemets, ou votre démarche? Tu parlais d'un questionnaire, c'est ça? Distribuer tout simplement des polycopiés?
Non, enfin, c'est pas du polycopier, c'est-à-dire qu'on avait on s'est mis au goût du jour, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un questionnaire papier.
Ouais.
Sur lequel, bon, un questionnaire papier qu'on diffait, qu'on donnait, alors bon, qui aux employés d'un supermarché, qui chez les postiers, qui chez les copains qui travaillent dans une boîte de marais, etc., etc., quoi. Et en s'apercevant que, bon, en ayant une BP, etc., les retours étaient peut-être...
Boîte postale, là.
À remplir. Moi, je t'avoue franchement que si j'avais 8 heures de filetage dans les pattes, j'aurais peut-être pas envie de remplir un questionnaire rentrant chez moi. Donc, on a bien précisé que, bon, d'une part, c'était anonyme, parce qu'il y a toujours cette barrière-là. Hein,
bien sûr.
Ensuite, bien dire que on n'était pas un syndicat, qu'on n'était pas un parti, qu'on n'était pas, qu'on n'avait aucune intention de détournement, ni de balance, hein. C'est-à-dire que on pose des questions, les gens ont envie de savoir où vont aller ces questions. Donc c'est complètement anonyme. Et ensuite, ce à quoi on a réfléchi, c'est justement cette histoire de travail manuscrit, et donc on est passé par mettre un QR code sur les papiers, et puis aussi sur notre blog, quoi, de manière à ce que les gens puissent accéder à un lien qui permet de d'accéder directement à cette histoire, quoi. Alors oui. Maintenant, le questionnaire en lui-même, on a dû réfléchir
à son contenu.
À son contenu. Oui. Et donc, alors pour te dire aussi, oui, on a effectivement aussi rencontré des gens. Hein. C'est-à-dire que bon, le QR code, c'est pour la foultitude qu'on ne peut pas joindre, mais on a bien des gens chers en os qui nous ont parlé. Hein. Alors maintenant, effectivement, c'est pas des cohortes qui faisaient la queue devant. Non, mais il faut être honnête.
Hein. Mais bien sûr.
Bon, mais il y a eu des contacts donc humains, des contacts par papier.
C'est ce que j'allais te demander. Comment vous étiez reçu d'ailleurs?
Hein?
Comment vous étiez reçu?
Alors, des choses un peu. Bon, il y a des choses très sympas, des choses amusantes, des choses qui sont moins. Bon, par exemple, la première idée qui nous est venue, c'est de diffuser le questionnaire dans les cortèges quand ça bouge, quoi.
Ah ouais?
Donc, on a eu des surprises comme. Si tu veux, va voir le grand, là, c'est le délégué syndical.
Ouais, bien sûr, ouais. Ouais.
C'est-à-dire qu'on pouvait expliquer au gars, on dit non, c'est pas le délégué syndical. Enfin, bon, il peut remplir un. Si c'est toi qui nous intéresse, quoi, en tant que travailleur. Mais voilà, quoi. Je veux dire que c'est des gens qui sont habitués aussi à une hiérarchie, ouais, au sein de leur lieu de travail qui n'est pas seulement professionnel mais aussi d'appartenance, qui fait que quand il y a quelque chose à exprimer, c'est le délégué qui le fait, quoi. Donc ça a été un premier obstacle. Il y en a un deuxième, notamment chez des gens qu'on pouvait aborder comme ça, le premier réflexe, c'était la crainte, quoi.
Ah, bien sûr.
Des gens qui t'abordent en te disant voilà, on a des questions à te poser, on n'est pas des délégués syndicaux, on n'est pas des sociologues, on n'est pas des flics, etc. Et on serait intéressé par savoir. Et là, ils sont pas habitués, hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent me parler d'un intérêt sur ce que je peux vivre à mon boulot, quoi. C'est pas tous les jours et on se demande de qui ça vient, quoi.
Tout à
fait. Donc il y a ce côté-là aussi. Et puis il y a des gens qui ont vu ça très bien, quoi. Tout en nous assurant qu'ils allaient répondre. Alors pour certains ça a été fait, pour d'autres ça s'est perdu dans quelques méandres où ils y ont renoncé quand ils ont vu le questionnaire, ce qui me permet quand même de te dire comment on a pensé ce questionnaire, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit il faut que ce soit pas quelque chose de très long, parce que si tu faisais référence au questionnaire de Marx tout à l'heure, c'est quelque chose d'impensable. Je veux dire, je sais plus, c'était 180 questions, c'était pas... Bon, donc on a groupé ça en chapitre. Par rubrique.
Ouais. Bon, de toute façon, la démarche s'est étalée sur 5 à 6 ans, donc on imagine quand même qu'au bout d'un certain moment, il y a eu une diffusion du fait que il y avait deux mecs chelous, il y avait des mecs chelous qui distribuaient des questionnaires dans les manifs.
Oui. Oui.
Mais tu dirais que vous avez eu un succès ou un taux de succès ou un taux d'échec, que vous êtes capable de le mesurer ou pas?
Non, c'est pas en ces termes-là, quoi. Je veux dire que si on prend en termes de chiffres, hein, je veux dire, les gens qui nous ont répondu, c'est une goutte d'eau dans la mer, quoi.
Ouais.
Faut pas se leurrer. En revanche, du point de vue du contenu et de la variété des secteurs, là, on a quand même quelque chose qui est une photo un peu plus élargie, quoi. Je veux dire, parce que ça va de gens qui travaillent en bibliothèque aux gens qui travaillent en quartier de marais, de gens qui sont en PME à des gens qui sont dans des boîtes où ça turbine. C'est des gens qui travaillent en
secteur médical.
Les plateformes de...
Plateformes d'accueil.
Plateformes de vente, là. Hein, ouais. Tu vois, Arbatis, des choses comme ça.
Ouais,
les call centers. Il y a une variété quand même de travailleurs et de travailleuses qui nous ont répondu, quoi. Donc, effectivement, ça nous donnait une assise suffisante pour avoir une photo de ce qu'ils vivent au boulot, mais aussi de l'impact que ça a en dehors du boulot. Parce que c'était ça qui nous intéressait aussi. C'est-à-dire que le travail, comment on le vit, mais comment ça se passe quand on en sort et quand on doit y retourner, quoi. Voilà. Donc, je te repasse Xavier.
Oui, vas-y.
Si tu
N'hésitez pas à changer le d'interlocuteur si jamais tu as envie d'intervenir, hein, au contraire.
Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Voilà, non, si, t'en fais pas.
Bien sûr.
On partage pas autant de paroles en deux.
Exactement.
Quand on a quelque chose à dire. Voilà.
Alors, question, est-ce que, d'une part, malgré la diversité des profils ou pour le coup, de la sociologie que vous avez interpellée, vous arrivez quand même à tirer quelques enseignements, quelques typologies? Et est-ce que vous avez observé, par rapport à la réception ou à la démarche que vous avez eue, un avant et un après les Gilets jaunes, pas seulement parce que vous avez intervenu et vous avez partagé des moments avec les gens dans ce mouvement, mais est-ce que quelque part il y a eu un regain d'intérêt pour ces questions-là, ou est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans votre démarche après le mouvement des Gilets jaunes?
Non, on peut pas. Enfin, on peut pas vraiment le dire comme ça. Je pense parce que les Gilets jaunes, quand ils s'exprimaient sur leur revendication, c'était pas en premier lieu la question du travail, quoi.
C'était plutôt
justement ce qui n'existe pas dans notre travail, enfin dans ce qu'on a fait, que d'autres ont fait d'ailleurs, c'est la question de la reproduction, quoi. C'est-à-dire ton logement, la question de comment tu te loges, la question de comment tu te véhicules ou tu te véhicules pas, etc. Enfin, ça, c'est, je pense que c'est ces questions-là que les jeunes posaient essentiellement. Enfin,
le pouvoir d'achat aussi.
La question, comme on dit, de la fin du mois, quoi. Alors effectivement, nous, par rapport au boulot, c'est la question du salaire. Donc la question qu'on se posait d'ailleurs, la question, c'est est-ce que la question du salaire peut redevenir une question politique? Mais ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais non, en gros, quand même, le gros trait, si on voulait vraiment dire, extraire un truc, c'est quand même le sentiment que, d'abord, les gens vivent très mal le travail, mais enfin, ça, c'est pas une nouveauté, quoi. Mais je pense que c'est le sentiment de dépossession, quoi. Enfin, vraiment, le sentiment que t'es dépossédé de ton boulot. Il y a un écart considérable entre l'énoncé pour lequel t'as signé et ce que t'es obligé de faire et comment tu dois le faire, quoi. Ça, c'est, je pense...
Tout à fait. On n'est plus dans l'artisanat, hein, c'est clair.
Voilà. Et notamment parce que... alors, pour plonger Fred un peu, c'est... quand même, si en gros, je veux dire, il fallait qu'on donne un peu d'unité à tout ça, c'est globalement, c'est des gens qui sont des travailleurs productifs, on va dire, hein, du privé, des travailleurs productifs, et beaucoup des travailleurs maintenant des services, quoi. C'est-à-dire que si tu fais le tour un peu, c'est le soin, les plateformes d'appel, c'est vraiment maintenant le gros du travail, beaucoup d'intérimaires aussi. Il y a pas mal de gens qui nous ont répondu qui sont des travailleurs intérimaires des services, quoi, tu vois. Ouais.
Tu as aussi les auto-entrepreneurs.
Alors, il y a eux, les ubérisés, c'est ceux avec qui on a eu le plus de difficultés entrer en relation.
Ben, eux se considèrent pas comme étant des travailleurs ou comme étant des salariés. Ils sont dans une image et dans une relation au boulot où même quand tu interviens pour discuter avec eux sur le vélo, déjà tu les déranges. mais en plus, il y a un vrai truc. Mais je reviens sur ce que tu disais par rapport à la dépossession.
Ouais.
Comment tu pourrais expliciter ce terme-là? Parce que
si c'est
donner du sens à son travail, c'est pas forcément quand on était dans une usine où on fabriquait les mêmes trucs pendant 8 heures que ça donnait du sens aussi. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une perte de sens supplémentaire?
Je pense que je pense que quand t'es dans une usine, tu turbines sur une chaîne, de toute façon, tu sais que c'est un boulot qui est invivable, quoi. T'es là parce qu'il faut que tu croûtes, et puis c'est très simple, quoi. Sauf que quand on le vend dans les services, ton métier, par exemple, je sais pas, dans le soin ou ce genre de choses, qu'on te dit, c'est quand même... C'est un métier qui a du sens. Et là, je parle de structure privée, hein, je parle pas de, tu vois, voilà. Et que au final, tu t'aperçois que tu dois être dans la bien-traitance, dans la bienveillance, etc. Et qu'en fait, tu maltraites, tu passes ton temps à ça, et que tu t'arrives même plus à faire ce pourquoi t'es là. que la pression, elle est identique à quelqu'un qui bosse dans l'industrie, c'est-à-dire que de toute façon, les rythmes sont aussi intenables. Tu bosses sur des plages horaires qui tu peux faire les 3-8 dans les services. Les gens qui sont sur la logistique, même les plateformes d'appel finissent à pas d'heure. Qu'il y a un espèce de management qui t'essaye de bourrer le mou en te faisant croire que ton boulot a du sens, mais globalement, et c'est ça, je pense, qui est vraiment ressorti, c'est que les gens se disent, mais non, vraiment, c'est des boulots de cons, quoi. Enfin, franchement...
Moi, je pose comme hypothèse, hein, par rapport à mon expérience du travail en usine, il y a un effondrement des collectifs de travail. Ça, c'est clair que en 20 ans, on peut voir des différences. C'est-à-dire que tu vas même pas retrouver tes copains, t'as pas le temps. Et deux, il faut quand même le noter, malgré toutes les saloperies qu'on te raconte sur la baisse de la productivité d'une manière générale, il y a une intensification du travail. C'est-à-dire que moi, alors que j'ai un rapport au travail qui est extrêmement détérioré, je n'ai jamais autant bossé quand je bosse, quoi. C'est vraiment incroyable. Il y a plus d'espace. Il n'y a plus le temps, comme il n'y a plus le collectif, on ne peut plus se suppléer les uns les autres. Donc, vraiment, je crois que c'est deux branches qui sont très prégnantes, quoi. C'est-à-dire, tu y vas pour te planquer, pour fumer une clope ou pour déconner avec les copains et les copines. Faut être hyper balèze, quoi. Faut vraiment avoir faut avoir des sacrés moyens. Je pense que ça aussi, c'est peut-être des choses qui ont beaucoup évolué, quoi.
C'est complètement ça, tout à fait. Notamment les gens qui bossaient dans le même boulot depuis un certain temps, et je reviens sur la question la composition au niveau des gens qui bossent dans les services, l'ont vu aussi. Parce que à la grosse différence d'une usine où tu bosses sur des machines, effectivement, c'est la machine que tu dois faire turbiner. Dans les services, c'est justement des secteurs de l'économie qui n'ont pas pu être soit mécanisables, soit passer sous le coupe directe, la coupe directe des machines, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste? Nous, on le voit même sur Capécure, hein, t'as un tel volant d'intérimaires, parce que tu supplées effectivement la productivité par des bras, hein, c'est vraiment ça, quoi. Et comme tu dis, hein, les gens se retrouvent pas forcément d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, les collectifs de travail sont cassés, quoi. C'est véritablement ça, quoi. Et pas seulement dans les usines.
Hein. Et en plus, maintenant, c'est-à-dire que non seulement on prend ton corps, c'est-à-dire qu'on te fait bien comprendre qu'on est maître de ton corps pendant 8 heures, mais en plus, j'allais dire, on prend ton âme, parce que t'as même plus le droit de faire la gueule quand tu vas au boulot. On te demande d'être content et d'être heureux et de mettre du sens dans ce que tu fais, quoi. Et ça, c'est aussi un truc qui m'a vachement perturbé, quoi. C'est-à-dire, je fais la gueule, c'est normal, je viens bosser, quoi. C'est incroyable. En plus, il faut être content d'être là, quoi. Alors, prenons un cas concret, parce que l'heure avance. Justement, vous êtes sur une zone de transformation d'agroalimentaire et d'agro-industrie, une des plus grandes du monde, non, d'Europe, c'est déjà pas mal. Comment ça a évolué, toute cette merde, et qu'est-ce que vous ont appris vos démarches et votre enquête, hein?
Moi, m'a surpris, surpris sans être surpris, c'est que ce qu'on a vraiment constaté, c'est que depuis 15-20 ans, la nature des contrats d'embauche a profondément changé, quoi. T'as quasiment les deux tiers des gens qui bossent maintenant sur la zone industrielle qui sont intérimaires, quasiment. Ouais. Quasiment. Et un volant, même pas, je dirais un quart d'anciens en CDI ou. Voilà, t'as un turnover qui est absolument considérable. Alors ça tient effectivement aussi à la nature de l'activité. C'est-à-dire quand même que tu travailles du poisson, mais alors vu l'état de la ressource, tu travailles quand même des stocks et des quantités qui sont moindres, qu'il faut vendre, et à un coût qui est de plus en plus important. Raison pour laquelle, de toute façon, les entreprises, effectivement, même si elles se portent bien, elles n'investissent pas dans les machines, quoi, tu vois. Et donc, elles préfèrent investir dans des bras qui sont pas trop chers et qu'on fait tourner, quoi. Nous, ça nous scotche, parce que de temps en temps, qu'on est la nuit là-bas, quand il se passe des choses, tout le monde se connaît. Absolument tout le monde se connaît. Tout le monde a fait le tour de toutes les boîtes, tu vois. Mais personne ne travaille jamais dans la même boîte plus d'un mois ou deux mois, quoi, tu vois.
Ouais, en plus, ça veut dire qu'il doit y avoir un marquage social, donc va pas t'amuser à ramener ta gueule, parce que sinon,
voilà,
tu te fais cramer dans tous les sens du terme, quoi.
C'est complètement ça. C'est complètement ça.
Alors, c'est un peu le cas ici, avec les prestataires dans les vignes, hein, pour les travailleurs agricoles. C'est-à-dire que t'as un volant de gens qui tournent, et celui qui bosse bien, il va avoir une bonne gommette. Et puis, celui qui ouvre un peu trop sa gueule, attention, quoi. Voilà.
Ça, c'est ça. Et donc, comme tu disais, c'est très difficile d'organiser les gens dans ces conditions-là, quoi. C'est très complexe, quoi.
Et oui, parce qu'il y a la thune derrière.
Bah c'est ça. D'où effectivement, ça explique la nature un peu des mouvements, enfin la nature que prennent certains mouvements. C'est-à-dire que ça se passe plus dans la boîte, ça se passe à l'extérieur, effectivement. C'est-à-dire que quand tu sors à 4h du matin que tu vas rejoindre un piquet ou ce genre de choses, quoi. Tu vois, t'es pas forcément en grève, t'es pas forcément en train d'agir dans la boîte, t'agis sur la boîte, mais depuis l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu se développer de façon importante, quoi.
Alors que paradoxalement, le lieu de l'entreprise ou de la boîte serait le lieu de l'exploitation immense, caractérisé, et de l'autre côté, le lieu de l'expression, ça serait totalement en dehors, sur des formes complètement en dehors.
Il y a des formes de résistance. Alors ça, c'est justement ce que l'enquête, mais je pense que tous les gens qui se sont confrontés à ce genre de choses ont buté là-dessus, c'est que les gens veulent parler jusqu'à un certain point, quoi.
Bien sûr, et oui, on les comprend. Hein. Ils vont pas te dire comment ils font pour faire en sorte que la chaîne d'un seul coup elle s'arrête.
Ben voilà,
oui,
c'est ça.
Ou alors qu'on a gratté 2 heures par-ci, 2 heures par-là, comme on a pu le faire chez Grosbois, on va saluer le dernier employeur, ou on a gratté une journée entière. Mais voilà, nous on peut le dire, mais parce que on s'en fout. Mais ça, tout le monde le fait, tout le monde, que ce soit même le meilleur, même le plus, on va dire, docile, est capable, quand ça s'arrête, de respirer et de souffler 2 secondes, quoi.
Complètement, complètement.
Et ça, c'est aussi des formes qui démontrent que, à la fois, la lutte et la relation de l'exploitation, en fait, elle est réelle et elle est concrète. D'ailleurs, quelque part, parce que c'est aussi un peu la grande question qui traverse votre ouvrage, même si elle est formulée. Qu'est-ce que c'est donc finalement que cette classe laborieuse, cette working class, ce prolétariat, et comment se manifesterait son existence ou sa, employons le grand mot, sa conscience?
Mais ça, c'est la question à laquelle on n'a pas de réponse. Bon, je pense qu'on en est tous là, on cherche, mais c'est très compliqué de faire la bascule, tu vois.
Ouais.
Sur qu'est-ce que ça peut produire comme aspiration sociale et politique. C'est ça ce sur quoi...
Tout le monde bute, c'est-à-dire tous ceux qui veulent intervenir pour transformer radicalement cette société.
Je pense qu'il faut peut-être le prendre autrement, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, quand tu parlais tout à l'heure des ubérisés qui se retrouvent pas, enfin, qui ont le sentiment... j'avais entendu justement une interview qui avait été faite sur l'actu des luttes, sur l'Argentine, la situation de l'Argentine en ce moment, et justement qui croisait un peu cette question de la composition de classe. Et je sais que la personne interrogée, on lui demandait est-ce que Milei a une base sociale dans les milieux populaires, au sein de la classe ouvrière, etc. Et elle disait oui, effectivement, il y a un fort pourcentage des classes populaires qui ont voté pour Milei. Et comment ça s'explique, tu vois? Et ben l'explication était la suivante, c'est-à-dire que c'est tout la grosse fraction des gens qui sont sur des travaux comme ça, qui occupent des postes ubérisés, avec un discours politique. C'est-à-dire, le discours était le suivant, nous, on ne dépend pas des aides d'État, on n'est pas des assistés, et on dépend pas non plus des trafics, on se fait nous-mêmes.
Ok.
Voilà.
C'est-à-dire que la poursuite de l'individualisme à l'intérieur du travail dans sa traduction politique, quoi.
C'est ça, complètement. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant, et ouais. Pour moi, je trouve que ça fait sens, quoi.
Alors, de l'autre côté, on te répondra qu'il y a quand même eu des mouvements collectifs, que ce soit en Angleterre, le lieu de naissance, justement, de ce travail, ou même en Italie, ou dans d'autres pays, où il y a eu des grands mouvements collectifs, quand même, de ces travailleurs, plus particulièrement des livreurs.
Complètement, et fort heureusement.
Ouais. Donc,
donc bon, voilà. Bon, je crois que pour conclure, le simple fait de, puisque notre démarche elle est aussi mouvementiste et autonome, c'est pas forcément de comme tu l'as dit d'avoir à définir un catalogue et une manière d'intervenir ou une conscience, mais c'est de faire un constat que la lutte de classe elle est réelle, elle est matérielle pour le coup, et qu'elle existe et que elle se traduit par une réalité sociale dont vous avez essayé de collecter une petite partie, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Ben, je pense que il y a d'autres personnes que nous qui peuvent s'y coller, quoi. C'est ouvert, comme dirait l'autre. Et après, effectivement, moi, je pense que, et ça permet aussi de produire du discours. Enfin, là, on est en train d'y en discuter. Je pense que nous, on va faire circuler l'information. Et puis, et comme tu disais, il y a quand même des gens qui ont réussi à s'organiser en Angleterre ou ailleurs sur ces questions justement de travailleurs ubérisés. Ben, je pense qu'effectivement, il y a aussi des gens qui se sont rencontrés, qui ont discuté, qui ont produit du discours et de l'analyse, quoi. Donc, ça passe aussi par là et ça sert un peu à ça aussi, quoi.
Alors, on est obligé de s'arrêter. On espère qu'on aura l'occasion de revenir sur votre boulot de manière un peu plus longue et peut-être plus détaillée. On va essayer d'affiner une partie de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez fait en interrogeant un de vos camarades qui a travaillé plus spécifiquement sur la question de la logistique et des mouvements qu'il y a eu dans la deuxième partie de notre émission. On va rappeler le titre du livre. Hein, ça s'appelle « Avant de faire le tour du monde, fait le tour de l'atelier ». C'est aux éditions Acracy. Vous pouvez aller sur le blog de la Mouette Enragée pour évidemment le commander, ou si vous trouvez pas, vous nous écrivez à nous, à l'Egregore, on s'arrangera pour se mettre en contact. C'est vraiment super intéressant parce que c'est pas de la socio, c'est pas une prise de tête politique.
Il y a beaucoup de vécu.
Il y a beaucoup de témoignages et c'est pas du tout donneur de leçons. Ça permet de faire émerger des paroles ouvrières comme on en entend véritablement assez peu, sans en plus le prisme de la sociologie qui peut y avoir, même s'il y a des sociologues très bien, mais il y a toujours cette démarche surplombante qui est un peu pénible. Un dernier mot peut-être avant de conclure.
Oui, je dirais que effectivement, l'enquête ouvrière permet de donner un éclairage un peu sur ce que sont et ce que vivent les gens qui se disent quelquefois même hein, je suis un ouvrier. Hein, y en a qui nous l'ont dit. Ce qui nous disent, ce qui ressort énormément dans cette histoire, c'est des choses qui nous intéressent nous à la Mouette Enragée comme vous à l'OCL. Enfin, j'ai envie de dire nous, tout court. C'est le fait qu'on a affaire à des gens qui ont besoin d'exprimer et ça.
Complètement.
Comment est-ce que ça peut, comment est-ce que ça pourrait se traduire politiquement, voire révolutionnairement c'est des gens qui disent que le boulot m'a claque, j'irai pas jusqu'à la retraite, j'ai mal partout, je rentre chez moi, je pique ou je prends des cachetons. Voilà quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont récurrentes. Dans tout ce qu'on trouve et avec toutes les contraintes intrinsèques au monde du travail, à savoir la hiérarchie, l'individualisation des...
Ok.
Allez.
Ok, ben merci à tous les deux et à très bientôt, puisqu'on est en train de se faire couper le sifflet.
À
très bientôt à tous les deux. Et encore merci pour le boulot et on aura l'occasion d'en discuter.
J'en doute pas. Merci à vous. Salut. When the world falls apart, something's dying flies. Levi stops, tears run down his face. She ran away from home in her mother's best coat. She was married before she was even entitled to vote. Her husband was one of those blokes, the sort who only laughs at his own jokes. The sort of war takes away, and when there wasn't a war, he left anyway. When the world falls apart, something staying lies. Levi stops, tears run down his face.
this war. Holland and Holland and Ramon Gauzier too are here to make it all okay with you. And one dark night he came home from the sea.
Oui, alors on va continuer puisqu'on a une troisième personne qui a participé à cette enquête ouvrière, qui allait de Lille d'ailleurs, celle-ci.
Bonjour à toi, troisième personne.
Fabien, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi, tu as fait, et surtout ton domaine, puisque ça a été, je crois, la logistique, et je crois d'ailleurs que par rapport, tu étais avantagé, à mon avis, par rapport aux autres de Boulogne-sur-Mer, parce que dans la logistique, que ce soit à Verbaudet, il y a eu des luttes, quoi. Il y a eu des choses qui sont passées et qui ne sont pas passées ailleurs. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Allô?
Allô, allô?
Oui, oui, oui. Est-ce que tu as entendu la question de Denis?
Oui, j'ai tout entendu, moi, c'est bon.
Alors, qu'as-tu à y répondre?
Alors, bah, plusieurs choses. Alors, en effet, en tant que Lillois de l'étape, bah, la logistique, on est déjà dans une région lilloise qui est... où il y a beaucoup d'entrepôts logistiques autour de la ville, parce que ben situation avec le réseau de transport et puis aussi une histoire ouvrière qui est différente de celle de Boulogne où
c'est le textile où, chez vous, ouais.
Ouais, voilà, où il y a eu beaucoup l'importance de la bourgeoisie textile qui s'est reconvertie et qui a reconverti sa main d'œuvre un peu dans la logistique. Donc il y a eu ça, et puis la deuxième porte d'entrée, c'est aussi le fait que j'ai assisté à la lutte des gens de la Redoute en 2014.
Ouh, et, oui, ça ne rajeunit pas ça.
Ouais, et ouais, c'était déjà là. et en effet, bah, Jean-Mi, t'étais là aussi, et c'est vrai que en suivant cette lutte-là, bah, de fil en aiguille, on s'y intéresse, et puis il y a eu la lutte des Verbaudets, vous en aviez parlé aussi en juin dernier. Donc tout ça fait que, en effet, ça paraissait un peu naturel de faire une enquête ouvrière sur la logistique à Lille.
Alors, pour donner de la teneur à nos auditeurs, on va expliciter que tu l'as dit, une grande partie des filatures et des industriels de la filature se sont reconvertis dans la vente par correspondance. Donc les Trois Suisses, Verbaudet, Fildard, La Redoute, etc. Avant, c'était des gens qui étaient soit dans les mines, soit dans la filature. Il y a une autre partie qui s'est aussi reconvertie dans le crédit. Ça, c'est Cofidis, etc. Et puis, la zone, c'est une zone d'échange international depuis X temps. Pour ceux qui vont dans le nord, là, à Lille, du côté de Falampin, vous avez sur l'autoroute le point multimodal. Mais évidemment, vous avez les autoroutes de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas. Et puis, de l'autre côté, l'Angleterre et la mer. Donc, la zone est particulièrement propice à ces échanges et donc à ce qu'on appelle dans la logistique la supply chain, donc la chaîne logistique, le problème de stockage. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la logistique? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui comme type d'emploi et comme masse d'emploi?
Alors là-dessus, ben justement, en faisant les enquêtes, on se rend compte que ben, finalement, les métiers peuvent paraître très différents, mais la paye est sensiblement la même. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont gagner le SMIC, un peu plus que le SMIC. Hein. Les filles de Verbaudet, elles étaient à 1003. La Redoute, c'est... en net, hein, c'était 1004, et puis Amazon, c'est 1005. Amazon, il gagne peut-être un petit peu plus. Mais voilà, on est vraiment sur des, finalement, sur la même grille salariale. On les appelle des agents logistiques polyvalents. Et le mot polyvalent, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils font tout. Ça veut dire, un coup, ils vont faire vider les camions, ranger la marchandise dans les boîtiers, là, dans les box, aller chercher cette marchandise, l'empaqueter et gérer l'expédition ou aussi les retours, notamment la Redoute où la personne interrogée expliquait qu'il y avait énormément de retours aussi, parce que les gens ils achètent énormément sur internet et ils rendent aussi les articles. Et tout ça, bah, en fait, c'est les mêmes, c'est le même statut, donc c'est agent polyvalent logistique. Et après, bon, il y a tout un système de maîtrise, hein, il y a les petits chefs, les grands chefs, mais qui, eux, finalement, sont surtout là pour gérer l'interface informatique pour aussi tout ce qui est rentabilité, gestion de stock, etc. Quoi.
Aujourd'hui, on considère qu'il y aurait travailleur ou une travailleuse sur trois qui ferait partie de la catégorie de l'INSEE ouvrier qui travaillerait d'une manière ou d'une autre dans le secteur de la logistique. Ça va aussi du transport, hein, bien sûr, à l'empaquetage et à la vente et à la préparation de commandes et tout ça. Ce qui est le hangar, nous, on voit le hangar en premier lieu, mais c'est pas que ça, c'est ce qui est en amont et aussi en aval de la chaîne. 1/3, hein, c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est énorme. Et c'est vrai que j'ai oublié de dire aussi, il y a une personne, un routier, que j'ai eu l'occasion d'interroger aussi pour l'enquête ouvrière. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir et en même temps, le fait qu'ils participent à la même chaîne logistique, quoi, de circulation du capital et puis de vente des marchandises, quoi.
Est-ce que tu pourrais, tu as parlé du salaire, mais est-ce que tu pourrais donner quelques éléments caractéristiques de ce type de boulot ou de travail?
Les caractéristiques, alors assez féminin, c'est même très féminin, que ce soit la Redoute ou Verbaudet. Mais c'est lié aussi à l'histoire régionale, hein, qui est dans le textile, c'était essentiellement une main-d'œuvre féminine. La Redoute et Verbaudet, alors surtout à Verbaudet, on avait aussi un système de bus, où finalement, c'est un vieux système où on allait chercher de la main-d'œuvre dans le bassin minier,
ouais.
Où les hommes allaient travailler
à la mine, ouais.
Au charbon, et les femmes, on venait les chercher en bus. Et ça, alors le bus n'existe plus, mais il y a toujours des gens qui habitent. Qui habitent le bassin minier, qui font des kilomètres pour venir bosser dans les entrepôts. Et une moyenne d'âge, la Redoute Verbaudet, c'est autour de 40-50 ans. Et Amazon, c'est complètement différent. Amazon, on est sur un turnover beaucoup plus important et beaucoup plus jeune.
Avec pas le même statut, ça, je suppose, qu'à Verbaudet. Et à la Redoute, tu as beaucoup de CDI et de CDD. Par contre, à Amazon, tu dois avoir beaucoup d'intérimaires, non?
Ouais, alors les CDD, il n'y en a pas, parce que ça fait chier de payer les primes.
Tout à fait.
Donc c'est essentiellement du CDI. Et l'intérimaire, il va toujours servir de variable d'ajustement, surtout ce qu'ils appellent le Q4, donc c'est la fin de l'année, c'est le dernier trimestre de l'année. Ouais. Et c'est là où tu as Black Friday,
les
cadeaux, Noël, tout ça. Et là ça a fond intérimaire. Mais sinon, il fonctionne quand même pas mal aussi avec du CDI. Parce que aussi, c'est plus. Enfin, il y a moins de frais à verser, quoi. Il n'y a pas de prime.
Alors là, tu nous parles des statuts. C'est effectivement très intéressant, mais pour qu'on puisse avancer un peu, est-ce que tu as été capable ou en capacité, est-ce que tu as réussi à voir s'il y avait quand même des éléments qui pouvaient constituer une culture de travail, une culture ouvrière, comme on pouvait l'avoir à l'intérieur d'autres types de professions? Est-ce que c'est une profession ou est-ce que c'est juste un boulot? Ou est-ce que c'est juste un boulot alimentaire? Ou est-ce que c'est juste un salaire? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose en plus? Quel rapport ont les gens à leur boulot dans la logistique?
Là encore, je différencierais un peu sur la Redoute et Verbaudet, où il y a quand même encore un esprit d'entreprise. C'est des vieilles entreprises qui sont issues du textile, avec aussi un tissu ouvrier qui est encore assez important autour. Donc si, il y a une culture ouvrière, on a notamment chez les femmes de Verbaudet, ça s'est aussi beaucoup vu pendant leur lutte, hein, ce côté solidarité, etc., qui s'est activé, mais aussi réactivé, parce qu'il y a toujours des histoires familiales de mères et de grand-mères qui ont bossé aussi un peu dans le secteur.
Okay.
Et Amazon, c'est différent. Amazon, on est. En plus, l'entrepôt, il est vraiment paumé dans la campagne, comme l'entrepôt d'Amazon. Et là, ça ratisse large. Hein. C'est,
t'as l'impression d'aller en taule, hein, quand tu vas...
Ouais, complètement,
Tu prends vraiment ta bagnole et tu vas ailleurs. Et quand tu sors, tu vas vraiment ailleurs, quoi. Tu rentres dans le travail, quoi. Il n'y a pas de continuité entre la zone de boulot et la ville, quoi. C'est vraiment...
Ouais, t'as une rupture, tu vas pisser des hangars, tout est grillagé, tout est très sécurisé. Donc, comme tu dis, c'est une taule, quoi.
C'est ça. Et donc forcément le rapport au travail, il est complètement différent. Il n'y a pas de Il n'y a pas de choses en plus. En plus, Amazon, on est souvent fait du picking, c'est-à-dire qu'on a des instructions dans une oreillette et on va chercher tel ou tel type de colis selon une allée, une étagère, etc., etc. En fait, on est un robot hein, pendant 8 heures et on les met dans son caddie et on fait la commande, quoi. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir des conversations, de créer du lien. Et vraiment, là, t'attends que ça passe et tu t'en bats bien les couilles du boulot, quoi. T'attends vraiment que ça passe, quoi. Enfin, t'attends. Malheureusement, t'attends pas, tu bosses, quoi. Ouais. Mais bon, voilà.
Et puis, avec des pratiques juste terminées sur Amazon où en fait, il y a des... Donc, les managers hyper présents, et on a des appels à la délation, c'est-à-dire que la personne interrogée disait que il y avait des affiches dans l'entrepôt qui disaient, si t'entends quelque chose, n'hésite pas à le dire à ton chef. Et c'est une politique d'entreprise d'encourager la délation et c'est pour ça aussi qu'il y a un turnover de fou parce que il y a beaucoup de gens qui ont du licenciement quoi, des entretiens, on les dégage quoi, on se fait pas chier, on dégage.
Et alors j'avais lu quelque part justement par un sociologue qui avait fait une observation participante. C'est-à-dire qu'il avait écrit justement sur les ouvriers de la logistique, qui s'appelle David Gaborio, qu'il avait retrouvé des éléments qu'il avait pu observer dans ce boulot, dans le mouvement des Gilets jaunes, ne serait-ce d'abord que par le gilet, mais aussi par ce qu'il qualifiait de culture de la palette. Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent là-dedans ou est-ce que ça t'interroge?
Tout à l'heure, tu disais un tiers des logements, métiers ouvriers, c'était de la logistique.
Ouais, donc de fait, ouais.
Et en plus, c'est des boulots de merde. Enfin, c'est des boulots où t'es mal payé, t'as un turnover de fou, donc ça m'étonne pas qu'il y ait ce lien entre les gilets jaunes et puis la logistique. Après, les personnes que j'ai interrogées, elles m'ont pas dit spécifiquement qu'elles avaient participé aux gilets jaunes. Mais oui, de toute façon, on fait partie aussi, et c'est une partie aussi du livre qui est un peu plus théorique, en disant que de toute manière, l'économie tertiaire à fond, et ben dans ce tertiaire-là, la logistique prend de plus en plus de place, quoi.
C'est ça, c'est une économie de flux, c'est-à-dire voilà. Qu'il faut que ça circule et que justement cette supply chain, cette chaîne logistique, elle soit tout le temps en capacité de répondre aux besoins et de circuler régulièrement. Alors il nous reste 5 minutes malheureusement.
Ouais, justement, alors on va parler du projet de cartographie ouvrière. Puisque ouais. C'est votre projet qui est exprimé fin.
C'est
fin
le tien,
livre.
Fabien.
C'est mon projet.
C'est ton projet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est-ce que tu veux cartographier?
Alors, c'est mon tropisme de géographe, ça. C'était un complément. Alors, c'est en annexe du livre, donc c'est vraiment encore à l'état de réflexion. Mais ça part du constat que. L'enquête ouvrière, elle peut avoir aussi une utilité très concrète dans les luttes. On se retrouve toujours un peu le bec dans l'eau quand il y a un mouvement social, par exemple, de pas avoir de lecture du territoire. Ça veut dire où se passe le travail, où sont les grosses boîtes, par exemple, de logistique,
ouais.
Où sont les boîtes où il y a quand même des gens qui luttent déjà dans la boîte, où on sait qu'il se passe telle ou telle chose. Et ça, je trouve que la cartographie, l'outil cartographique peut permettre d'avoir un peu un regard comme ça, hyper territorial de l'état de la lutte des classes, en gros. Et ça permettrait un complément de cette enquête ouvrière dans le sens un peu axé sur les luttes, quoi.
Ah ben oui, d'avoir une inscription aussi dans l'espace. Et ben là, tu vois, tu fais la boucle, puisque ton illustre ancêtre Hérodote, l'inventaire de l'histoire, en grec histoire, ça se dit historiae, ça veut dire enquête, justement. Il avait été se déplacer pour aller étudier les peuplades à l'étranger de ces barbares qui ne parlaient pas grec à l'intérieur de leur espace pour voir et comprendre comment ils étaient arrivés ici et qu'est-ce qu'ils faisaient à l'intérieur de ces espaces. Donc quelque part tu renoues avec la tradition historique antidéluvienne en gestion en essayant d'inscrire des groupes sociaux dans un espace et des groupes sociaux qui sont en mouvement, qui sont en relation avec leur espace social et qui sont également en relation entre eux. Donc voilà, la classe dans l'espace, bravo, c'est ça le projet de cartographie. C'en est où d'ailleurs ?
Alors bah, c'était c'était une idée. Hein, ça n'a pas encore évolué trop depuis la sortie du bouquin. Après, ça demande du temps. Ça demande, c'est aussi un appel à prendre l'outil en main. Et puis peut-être là sur l'île, on est peut-être plusieurs camarades à vouloir essayer de le faire. Et puis sur Boulogne aussi, parce que le travail d'enquête, il est déjà fait. Mais voilà, l'idée, c'est de, comme disait un autre illustre personnage, les cartes et la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et ça pouvait être la guerre de classe.
Qu'est-ce que tu retires, toi, de tout ce boulot? T'as 2 minutes pour nous livrer ton sentiment profond sur ces 4-5 années de travail et de recherche et de d'intervention et de d'enquête, pour le coup. Est-ce que t'as trouvé le coupable?
Ah, bah, c'est compliqué. Hein.
Non, qu'est-ce que t'en retires à titre personnel comme à titre politique, hein?
Bah, après, à titre personnel, bah, déjà, c'est aussi des moments de lutte que j'ai participé. Je parlais tout à l'heure de la Redoute, donc c'est sûr que c'est un truc un peu au long cours. Donc c'est vrai que le mettre sur papier et puis avoir une vision un peu plus globale de tout ça, c'est intéressant. Et puis aussi le fait qu'une enquête ouvrière, au-delà de connaître un peu cette classe ouvrière qu'on dit disparue, etc., c'est aussi, je trouve, un moyen de contact et de quand on est militant politique et qu'on ne baigne pas forcément dans la logistique ou dans d'autres secteurs, quoi, parce qu'on bosse chacun dans des secteurs différents, et ben, je trouve que l'enquête ouvrière, c'est aussi un outil aussi pour se parler,
pour connaître son environnement.
Connaître son environnement, exactement.
C'est super
et
important.
Puis avoir des contacts au cas où. Moi, il y a toujours aussi cette optique-là que les gens que j'ai interviewé, c'est pas juste pour faire un bouquin, je m'en fous, c'est des gens que j'ai le contact et qu'on peut se recontacter le cas où un mouvement social, par exemple.
Tout à fait.
Et la Redoute, c'est ce qui s'est passé. La Redoute, comme il y a des contacts qui ont été pris, le mouvement des retraites l'année dernière, on a fait des trucs un peu avec eux, quoi.
Ben oui, on pense évidemment à Ali, on pense à Anaïs, et tout ça, tous ces gens qu'on a croisés, qui nous ont donné des leçons de lutte et des leçons de vie, et qui nous ont bien plus apporté que l'inverse. Il y aurait eu des dizaines et des dizaines de questions qu'on aurait aimé vous poser, la question de l'extériorité, la question de pourquoi on fait ça, etc. Mais on invitera les auditeurs qui seraient intéressés pour poursuivre cette conversation, à vous suivre sur le blog de la Mouette Enragée, où vous poursuivez votre réflexion et l'illustration de vos interventions, et puis à se plonger dans le bouquin qui n'a pas de prix d'ailleurs, je note
15 euros.
Ah, c'est pas marqué dessus, hein, donc c'est à la gueule, hein.
15 euros pour 280 pages,
voilà,
même, hein.
et qui se trouve dans toutes les bonnes crèneries. On invite évidemment à le commander chez vos libraires ou directement sur le site de la Mouette Enragée. Voilà, merci beaucoup, ouais. Fabien. À très
merci
bientôt.
À bonne soirée. Salut.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Alain Gore, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net
et sur le blog Le Chat Noir 51.